Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1950, le plus redouté des bandits de Sicile est abattu après 7 années de traque.
La curiosité est un vilain défaut.
Sa décision est prise. Dans quelques semaines, il arrêtera la corrida. Il ne le sait pas encore. Mais ce jour-là, il a rendez-vous avec la mort.
Jusqu'à 22h.
Intrigué par la beauté et la tendresse de ce jeune grec, la chanteuse l'invite à dîner dans son appartement boulevard Lannes.
Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le bandit sicilien Giuliano, le torero Manolete, le dernier mari d'Edith Piaf, Théo Sarapo et tant d'autres, vous ne les connaissez pas et pourtant, ils ont changé l'histoire. Ce sont des héros dont on ne parle pas. Ils sont à l'honneur de notre curiosité. Bonsoir Jean-Yves Le Naour.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes historien. Pourquoi vous êtes passionné pour ces oubliés, ces laissés pour compte de l'histoire ?
Ben c'est vrai que en histoire, bien souvent, on parle des grands hommes et on dit que les grands hommes ont fait l'histoire et on oublie que derrière eux, eh bien, il y a cette foule plus ou moins méconnue, cette foule anonyme qu'on appelle le peuple. Et puis là, il s'agit de personnages peut-être secondaires, mais c'est un petit peu, si vous voulez, j'ai voulu passer par l'itinéraire bis de l'histoire plutôt que par les grandes autoroutes des grands hommes.
Mais c'est paradoxal parce que si les historiens les ont oubliés, comment on retrouve leurs traces et des infos sur eux ?
Alors, ceux que l'on a choisis, pour la plupart, sont des personnages qui, à un moment, ont été projetés dans la lumière et qui ensuite sont retombés dans l'ombre. Donc, on les a aussi choisis parce qu'ils racontaient une histoire. Non pas seulement parce que... qui devaient incarner quelque chose. Mm-hmm. Incarner une idée, un combat, des valeurs, et puis ensuite...
On va les raconter, ces histoires.
Aurait été oublié.
Tiens, un premier exemple. Sylvain Rubinstein, surnommé le danseur qui tuait des nazis. C'est quoi son histoire ? Où est-ce qu'il est né ?
Ah, c'est une histoire très compliquée parce que lui-même, d'ailleurs, il ne savait pas qui il était. Il est né d'un père russe, d'une mère danseuse juive, polonaise. Donc, est-ce qu'il est polonais ? Est-ce qu'il est russe ? Est-ce qu'il est juif ? Est-ce qu'il est orthodoxe ? Il ne le savait pas lui-même. Il a grandi en Ukraine. Et il est devenu danseur avec sa sœur jumelle, Maria.
Sylvine, son prénom.
Voilà, Sylvine avec Maria. Et ils avaient un nom de scène qui était Dolores et Imperio parce que c'était des danseurs de flamenco. Et ils avaient une carrière internationale. Ils jouaient dans les plus grands cabarets du monde, à Tokyo, en Allemagne, à New York, etc.
Et puis dans les années 30, ils vont partir en tournée et puis revenir quelques années après en Europe. Et là, tout a changé.
Tout a changé parce qu'Hitler est là. Ils ne peuvent plus se produire parce qu'ils sont juifs. La guerre survient. Ils se retrouvent en Pologne et quand la guerre survient, et ils sont absolument coincés. Ils sont coincés parce que il y a ces lois, ils sont enfermés dans des ghettos, etc. Mais Sylvine, lui, se résigne pas et il entre dans la résistance. Alors, la résistance polonaise, l'Armia Krajowa, mais aussi, ce qu'on sait pas, ce qu'on sait beaucoup moins, la résistance allemande, parce qu'il y avait une résistance allemande. Et vous voyez, cette histoire d'un danseur de flamenco, c'est aussi l'occasion de parler de cette résistance allemande, la résistance au sein de la Wehrmacht. Et parce que vous voyez, en France, il y a eu une résistance, tout le monde le sait, dans le métro parisien, à la station Barbès, je crois, on a tué un officier de allemand, le colonel Fabien l'a assassiné. Bon, eh bien, à Berlin, c'est 250 officiers SS qui ont été assassinés pendant la guerre.
Et ce danseur juif
n'en parle.
A tué des nazis ?
Ah oui, alors lui, il se grimait en femme. Il faisait aussi du renseignement. Il volait des armes à la Wehrmacht ou SS qu'il apportait à la résistance polonaise. Il mettait des morceaux de sucre dans les réservoirs des camions de la SS. Bon, c'était aussi des choses comme ça. Et puis, il s'habillait en femme avec armé de grenades et il jetait ses grenades dans les cafés fréquentés par la SS. Il a assassiné deux officiers lui-même. Il a hébergé. Donc c'est quelqu'un qui était totalement hébergé des déserteurs, des résistants, etc. Mais c'est quelqu'un qui était totalement oublié. Puis c'est un personnage tout à fait fantasque. Vous voyez, c'est un danseur. Sa sœur est morte dans les camps. Et lui, pendant les bombardements de Berlin, il ne se cachait pas dans les caves. Il montait et sur les toits, il dansait le flamenco. flamenco sous les bombes.
L'un des oubliés de l'histoire dont vous racontez le destin dans ce livre publié chez Flammarion. On va dans un instant découvrir une autre histoire, un autre destin, celui de Tom Simpson, cycliste anglais mort sur le Tour de France. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
13 juillet 1967, la 13e étape du Tour de France part du port de Marseille. Il fait plus de 40 degrés.
RTL.
Et voilà qu'après 170 km de course, il faut affronter le Mont Ventoux. À quelques centaines de mètres seulement du sommet, un coureur vacille. Et malgré les efforts du public qui le remet en selle, il finit par s'effondrer. Il était champion du monde. Le premier Britannique à enfiler le maillot jaune.
Day after day.
Le vélo est ma vie, affirmait-il. Il ne savait pas que ce serait aussi sa mort.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les oubliés de l'histoire, mais pas de la curiosité sur RTL, grâce à notre invité Jean-Yves Le Naour. On va raconter l'histoire de Tom Simpson. Maintenant, alors moi je suis passionné de sport et de vélo, et donc je connais un peu son histoire. Pourquoi dites-vous que ce cycliste mort sur le Mont Ventoux est un oublié de l'histoire d'une certaine façon? Parce qu'il y a une partie de son destin qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est ça?
Oui, il y a une partie de son destin qu'on ne connaît plus et qu'on ne veut peut-être pas connaître. Or, il est à l'origine d'un phénomène qui continue jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la traque du dopage. Alors à l'époque, on disait pas le dopage, on disait la topette, la charge, le doping. Et c'est le premier dans les interviews à dire ben oui, pour gagner, les épreuves sont tellement dures qu'il faut se doper. Moi, je prends des amphétamines, etc.
Ah, il le disait.
Et il avait jeté donc ainsi. Il faut pas parler. Personne ne doit le dire. Et donc il avait tiré toute la colère sur lui.
On est en quelle année là? On est dans quelles années?
On est au début des années 60. Voilà. Et c'est un coureur anglais. Il a été champion du monde en 1965. Il a gagné le Paris-Nice. C'est vraiment un coureur qui est en pleine ascension, mais qui n'a jamais réussi à gagner le Tour de France. Et là, sur le Mont Ventoux en 1967, il meurt devant les caméras. C'est la mort en direct. C'est pour ça aussi qu'on se souvient de cette histoire, c'est que ça a été aussi rediffusé.
Mais ce Tour de France là, déjà, qu'il a du mal à le faire, c'est-à-dire c'est son Graal. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'un jour il va pouvoir enfin, avant de raconter ces derniers instants, il va pouvoir enfin participer au Tour de France?
Alors c'est vrai que oui, c'est le Graal, surtout pour les coureurs britanniques. C'est pas la grande nation du vélo. Ça a été le premier coureur britannique à enfiler le maillot jaune. Mais il a jamais réussi à. Il a gagné des étapes. Il a parfois eu le maillot jaune, mais il l'a jamais gardé. Il a jamais vraiment réussi à faire un Tour de France réussi. Et là sur le Mont Ventoux, en 67 en plein été, il fait plus de 40 degrés. Il faut dire aussi.
Il a pris des amphétamines.
Il
aussi,
a pris 10 cachets. Il les montrait au départ, il les mettait sur sa langue et il disait à ses coéquipiers combien j'en ai sur ma langue, voyez.
Amphétamines et cognac, c'est ce que vous racontez dans votre livre Les oubliés de l'histoire.
À l'époque, aujourd'hui, on a des ravitaillements, ravitaillements en eau, on sait qu'ils se déshydratent les coureurs. Mais à l'époque, il y avait des théories médicales comme quoi il fallait pas les abreuver parce que sinon ils perdaient des sels minéraux avec la sueur. S'ils buvaient, ils perdaient avec la sueur des sels minéraux, et c'était encore plus dangereux. Ce qui fait que si vous avez des images d'archives, mais ils se précipitent dans les rivières, sur les fontaines, ils rentrent dans les cafés, ils prennent des bouteilles et ils partent comme ça. Et lui, il a pris une bouteille de cognac, il a vidé la moitié de la bouteille de cognac, il fait 40 degrés, il est en train de monter le Ventoux avec en plus tout un tas de médicaments. Il n'est pas arrivé au bout.
Mais me dites quand même pas que c'est grâce à sa mort qu'on abreuve maintenant les cyclistes sur le Tour de France.
Alors, on a changé cela, effectivement, mais sa mort a changé surtout la question du dopage. C'est que la mort en direct de Tom Simpson a posé la question de dopage, qui fait que l'année suivante, 1968, pour la première fois, on fait des contrôles antidopage sur le Tour de France. Et c'est le début de cette lutte entre dopage et antidopage, et qui n'est pas terminée jusqu'à ce jour. C'est le début de la triche dans le sport. Et vous voyez, Tom Simpson, on peut l'oublier, mais c'est le début de quelque chose qui le dépasse.
Je découvre vraiment ça, c'est-à-dire que c'était un lanceur d'alerte, en fait. On peut dire ça d'une certaine façon. Ou alors il était dans la provoque.
Alors oui, c'était un petit peu un provocateur, parce qu'il avait vraiment tout le... C'était un Anglais qui jouait des stéréotypes, il avait cet humour anglais, très flegmatique. Quand il venait à une interview d'un journal, il venait avec un chapeau melon, costume, parapluie. Oui. Vous voyez, il avait beaucoup d'humour, donc il était effectivement dans la provocation. Mais en même temps, il disait clairement, pour gagner, il faut tricher.
Mais comment réagissaient les autres coureurs, le monde du cyclisme, dans lequel la loi du silence prédominait jusqu'alors et a souvent prédominé après.
Il ne l'aimait pas. Et quand vous voyez les déclarations des organisateurs du Tour à l'époque, ils disent quasiment bien fait pour lui. On est débarrassé de ce mouton noir qui a osé dire la vérité. Personne ne doit dire la vérité. Tout le monde le fait, tout le monde se dope, mais il faut que personne le dise.
Et ce qui est passionnant aussi dans votre livre Les Oubliés de l'Histoire que vous publiez chez Flammarion, Jean-Yves Le Naour, c'est que vous racontez aussi l'origine, l'histoire de ces héros que l'histoire a oublié. Vous racontez notamment que Tom Simpson a fabriqué dans une décharge son propre vélo. Et ça fait quelque chose de découvrir cette histoire.
D'autres destins, d'autres histoires, d'autres oubliés de l'histoire à venir dans un instant dans La Curiosité.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Qui se souvient que le 30 octobre 1984, le corps d'un homme torturé, étranglé, laissé pour mort et noyé vivant, fut retiré des eaux de la Vistule.
RTL.
Il s'appelait Jerzy Popielusko. Il était prêtre, exécuté pour avoir osé défier le pouvoir communiste.
Jusqu'à 22h.
Comment en est-il arrivé là ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À la curiosité, vous le savez, on aime les laisser pour compte, les oublier de tous bords et notamment de l'histoire avec notre invité. On les réhabilite, on leur donne de l'espace avec l'historien Jean-Yves Le Naour. Je rappelle que vous publiez Les Oubliés de l'Histoire, c'est aux éditions Flammarion. Et dans cette galerie de portraits d'hommes, de femmes, il y a ce fameux prêtre polonais. Pourquoi il mérite d'être connu, reconnu aujourd'hui ?
Parce que ça a été un des principaux opposants au régime communiste polonais et il a été aussi, à sa façon, un de ceux qui l'ont fait tomber. Alors il est un peu oublié parce qu'aujourd'hui les deux figures centrales dans l'histoire polonaise pour expliquer la chute du régime communiste polonais, c'est Lech Walesa, hein, bien sûr, le politique, et puis Jean-Paul II, le religieux. Mmh. Et lui qui était à la fois politique et religieux, un prêtre engagé à Solidarnosc, vous voyez, il est écrasé par ces deux figures, il est oublié.
Alors là, on va commencer par raconter son histoire du début. Il rêve de devenir prêtre depuis tout petit.
Oui, c'est
Jerzy Popielusko.
C'est l'appel de la foi, hein, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais il faut savoir une chose en Pologne, c'est que la Pologne a une histoire particulière. Elle a un problème, c'est sa géographie, c'est-à-dire qu'elle est coincée entre l'Allemagne et la Russie. Et donc, dans son histoire, elle a souvent été occupée par l'Allemagne ou par la Russie, et souvent par les deux. Et les Allemands sont luthériens et les Russes sont orthodoxes. Ce qui fait que l'Église catholique, c'est un centre de résistance, souvent culturel, mais aussi politique.
Et donc dans les années 50, en Pologne, ce prêtre va devoir déjà se battre. Enfin, alors, dans les années 50 d'ailleurs, il n'est peut-être pas encore ordonné prêtre. Mais en tout cas, il va grandir avec cette oppression de son pays, de ce pays qu'il a envie de libérer, de participer à libérer.
Oui, alors au départ, c'est vraiment il a une santé très fragile. Lui, ce qui l'intéresse, c'est servir Dieu. Il ne fait pas de politique au départ, mais c'est vrai qu'il est parfois en butte à des formes de discrimination. Par exemple, au service militaire, il a sa petite croix, on lui arrache sa croix, on la jette au sol, on la foule, parce que voilà, il y a ce symbole religieux qu'un certain nombre de dirigeants ne veulent pas. Donc, il rencontre le politique fort tard. Et un peu par hasard.
À quel moment et grâce à qui ?
Eh bien, en fait, grâce aux grèves des chantiers navals de Solidarnosc, à Gdansk, en 1980, les ouvriers occupent les usines et les chantiers navals, etc. Et ils veulent des prêtres pour faire des messes à l'intérieur des usines qu'ils occupent. Et donc, il est envoyé auprès des métallos pour faire des messes. Et il a ces ouvriers qui se mettent à genoux là sur le sol huileux, etc. Et à partir de ce moment-là, il sera le prêtre de Solidarnosc. Et quand la loi martiale est décrétée, parce que Solidarnosc, il y a aussitôt 10 millions d'adhérents, il y a 13 millions de travailleurs en Pologne, et il y a 10 millions d'adhérents à Solidarnosc, et 1 million d'adhérents au Parti communiste. Vous voyez, à un moment donné, le régime communiste était complètement discrédité par la force de Solidarnosc. Et c'est pour ça qu'il y a eu la loi martiale, on a arrêté les chefs, les dirigeants, on a interdit leur presse, etc. Mais on n'a pas arrêté les prêtres. Et lui, ses prêches devenaient des meetings. Voilà.
C'est-à-dire que la messe chaque dimanche devenait un acte politique d'une certaine
exactement,
façon.
Exactement, exactement. Et ses discours, ses homélies, ses sermons étaient même enregistrés parfois et circulaient sous le manteau. C'était diffusé par la radio Free Europe qui émettait sur toute l'Europe de l'Est. Et il devenait. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se déplaçaient quand il faisait des messes en plein air. Ça devenait un opposant principal. Il fallait le faire taire. Voilà, et bien donc il a été enlevé le 19 octobre 1984.
Oui, parce que le Kremlin veut récupérer, garder la Pologne sous sa
coupe.
Oui,
c'est ça, c'est qu'en fait, qui a fait ça? Encore aujourd'hui, on ne le sait pas, on a des pistes. On n'a surtout pas voulu le dire à l'époque, parce qu'il ne fallait pas pointer du doigt l'URSS.
Alors racontez, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce prêtre? Il est kidnappé?
Alors il est kidnappé, oui, par trois policiers de la police politique. Et bon, il est lâché, attaché et jeté dans la Vistule avec lesté de pierre. Mais quand on va le sortir quelques jours plus tard, il est absolument méconnaissable. Ses deux frères sont venus pour le reconnaître. Ils n'ont même pas pu le reconnaître.
Il a été frappé à mort.
Il a été frappé à mort. Oui. Peut-être même qu'il était mort avant d'être jeté à l'eau. Et sa mort a été l'occasion d'une communion des Polonais.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment se sont déroulées ces obsèques? Est-ce qu'il y a un hommage qui lui a été rendu?
Oui, si le KGB est derrière, parce que c'est vraiment ça la piste principale, l'URSS pensait à soulever les Polonais pour avoir une occasion d'entrer de force et de remettre de l'ordre, parce qu'ils trouvaient que Jaruzelski n'était pas assez fort.
C'était pactisait, le premier ministre polonais.
Voilà, il était dans le compromis, il fallait de la poigne. Et donc il voulait créer du désordre en Pologne. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les Polonais se sont réunis autour de cette tombe. Et le primat de Pologne, qui était Mgr Glem, dit « Un jour, il faudra que nous, Polonais, nous nous réunissions autour d'une table plutôt qu'autour d'une tombe. »
Et finalement, cette démocratie pour laquelle il a lutté, ce prêtre polonais, quand est-ce qu'elle est actée en Pologne?
Eh bien, en 1989, pour la première fois, voilà, il y a des élections, il y a d'abord un gouvernement de coalition avec Solidarnosc, et puis ensuite, en attendant des élections libres, et que remporte Solidarnosc. On s'est mis autour d'une table en 1989, mais voyez, les Polonais ne pouvaient pas le faire. Il fallait d'abord que Gorbatchev décide, qui arrive au pouvoir en 1985 en Russie, décide de rendre sa liberté en quelque sorte à cette Europe captive qui était l'Europe de l'Est.
Le destin d'une femme dans un instant, Louise Weiss, qui s'est battue pour l'Europe et le droit des femmes. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On aime ce genre de femme dans la curiosité partie de rien. Elle a lutté contre les clichés sexistes et elle a participé à la construction de l'Europe aux côtés de grands personnages que l'histoire a choisi de retenir. Mais elle, Louise Weiss, on l'a quasiment oubliée. Notre invité, l'historien Jean-Yves Le Naour, lui rend la place qu'elle mérite. On va raconter l'histoire de Louise Weiss. C'est l'une des oubliées de l'histoire dont vous parlez dans votre livre chez Flammarion. C'est d'abord une jeune fille très intelligente.
Oui, et peut-être trop pour son père. C'est-à-dire que son père considérait que les femmes devaient se marier et puis c'est tout. Une intellectuelle, on n'arrivera pas à la marier.
On est au début du XXe siècle, c'est ça?
On est au début du XXe siècle, elle est née en 1893 et elle lui ressemble trop à son père et il ne lui a jamais pardonné. Même sur son lit de mort, il lui a dit « tu me ressembles trop ».
Et pourtant,
elle a toujours voulu épater son père il a fallu toujours qu'elle cache les prix qu'elle recevait, par exemple. Et alors, par exemple, quand elle devient agrégée de lettres, elle le cache, elle le dissimule, elle ne l'avoue à son père que le jour de la mobilisation, le 1er août 1914,
c'est
en
dingue.
Se disant que ça va cacher la mauvaise nouvelle.
C'est dingue, Jean-Yves Le Naour, parce qu'elle a 21 ans quand elle devient agrégée. C'est la plus jeune agrégée de lettres en France. Elle aurait dû être fière et en parler à son père. Donc on a le contexte familial, et pourtant elle va le dépasser quand la guerre éclate. Que fait-elle?
Alors elle s'engage d'abord comme infirmière, ce que faisaient souvent les jeunes filles de bonne famille, parce qu'on est, n'oublions pas quand même, dans un milieu bourgeois, avec cette pesanteur, conservatrice, morale, etc. Et puis très vite, le rôle d'infirmière, ça lui pèse, parce que elle n'est pas à sa place, elle ne se sent pas à sa place. Alors elle commence à écrire dans les journaux, mais sous un pseudonyme masculin, parce que on n'embaucherait peut-être pas une femme. D'ailleurs, l'argent va à son père, et pas à elle. Et le père ne veut même pas lui donner l'argent qu'elle gagne, parce qu'il lui donne une petite pension d'argent de poche de sa fille, mais elle n'accepte pas qu'elle gagne de l'argent seule. Et elle doit se marier, c'est tout.
Et à la fin de la Première Guerre mondiale, Louise Weiss va trouver un peu en quelque sorte son indépendance, elle va créer sa propre revue. Comment s'appelle-t-elle et que contient-elle? Que raconte-t-elle?
Alors c'est une revue tout à fait originale qui s'appelle L'Europe Nouvelle et qui contient un certain nombre de... C'est un recueil diplomatique des textes, des dépêches, etc. des pays européens. Et c'est une revue qui veut en quelque sorte participer, pourquoi justement Europe Nouvelle, participer de cette idée de société des nations, de parlement des nations européennes.
Mais elle est toute jeune, cette Europe, elle a combien d'années là?
Oh bah elle n'existe pas encore.
Ouais, pas dans l'idée,
L'ASDN vient d'être fondée en 1919 avec le traité de Versailles, mais c'est un bébé qui naît dans de sales conditions, puisque les États-Unis qui l'ont porté sur les fonts baptismaux ne ratifient pas le traité de Versailles, l'Allemagne n'en fait pas partie, l'URSS n'en fait pas partie. Bon, donc ça part, c'est un peu un club de vainqueurs au départ. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment cette idée des États-Unis d'Europe qui est en train de germer, et elle en sera un petit soutien. Elle participera au combat de Briand pour la paix, pour la réconciliation avec l'Allemagne, Aristide Briand, dans les années 20. Et puis
elle va fonder une école, l'école de la paix. Qu'est-ce que c'est ça, en 1930?
Alors l'école de la paix, eh bien là aussi, ça existe toujours. On parle de l'école de polémologie, ça a changé, etc. Ouais. De termes, mais il s'agit, elle pense que la guerre est née dans le cœur des hommes. Il faut aussi apprendre la paix, et la paix, c'est difficile à expliquer.
En fait, c'est un institut d'études supérieures de relations internationales,
oui,
en quelque sorte. On apprend la diplomatie, se comporter les uns envers les autres.
Voilà. Le problème, c'est quand Hitler arrive au pouvoir, hein, tous ses grands rêves d'État Unis d'Europe, de relations internationales apaisées, fondées sur le droit, la discussion, l'arbitrage permanent, tout ça tombe à l'eau. Donc elle raccroche.
Et sa revue, qu'est-ce qu'elle devient, sa revue ?
Sa revue, elle va se poursuivre jusqu'en 1939, mais elle va raccrocher en 1934, parce qu'elle refusait de faire paraître dans sa revue les textes allemands. Or, sa revue, elle était quelque sorte de journal officiel européen qui publiait les principaux textes.
Donc c'est une sorte de pionnière de l'Europe.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement.
On n'a pas retenu spontanément. On va dire Jean Monnet. On va pas dire Louise Weiss.
C'est ça. On pense à l'après Seconde Guerre mondiale, parce que ce sont les fondateurs. Hein, mais avant ces grands fondateurs, il y a ceux qui ont semé les petites graines. Et ceux-là ont été complètement oubliés.
Elle s'est aussi battue, Louise Weiss, pour les droits des femmes. C'est une féministe. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, les femmes ?
Vous savez qu'en France, la France est un des derniers pays européens, avec la Suisse la Yougoslavie, je crois,
avoir donné le droit de vote aux femmes.
Voilà, c'est ça. Donc, en 1934, quand elle cesse son combat pour l'Europe et pour la paix, parce que c'était lié, elle s'engage pour le combat sur le suffrage féminin, avec des méthodes qui rappelait celle des suffragettes britanniques, c'est-à-dire qu'on s'enchaîne en pleine rue, on fait du tapage, on perturbe les courses de chevaux, on fait des happenings en quelque sorte, aujourd'hui. Hein. On fait voter les femmes dans la rue et dans des cartons à chapeau. Elles se présentent aux élections alors que c'est tout à fait illégal. Les femmes n'ont pas le droit de vote et elles ne peuvent pas être élues non plus, mais elles se présentent aux élections. Elles auront 14 000 voix. Bon, c'est peut-être pas des voix tout à fait officielles, enregistrées, etc. Elle est arrêtée par la police, etc., mais elle fait jouer ses relations, elle asperge les policiers de poudre de riz, bref, elle n'arrête pas de faire parler d'elle.
Et comment se termine son histoire à Louise Weiss ?
Eh bien, c'est triste parce qu'elle est allée d'échec en échec. L'Europe, c'est un échec. Le combat pour le suffrage des femmes, en 1939 arrive la guerre, elle arrête ce combat, elle ne peut plus poursuivre sous l'occupation, donc c'est un échec. Et après 1945, elle essaie d'avoir une carrière littéraire, et puis elle voudrait être reconnue, et elle a parfois des petits succès, des prix, mais elle n'est pas reconnue comme un écrivain à succès. Elle fait des films documentaires, elle parcourt le monde, etc., mais elle n'a jamais vraiment trouvé sa place. Et ce qui est intéressant, c'est formidable, l'histoire la rattrape à la fin de sa vie. À 86 ans, elle est élue députée sur la liste RPR, la liste de Jacques Chirac, en 60, pour l'élection du Parlement européen, pour la première fois élue au suffrage universel. Et comme elle a 86 ans, eh bien, elle va prononcer le discours inaugural de ce Parlement en 1979. Et là, voilà, l'histoire la rattrape enfin. Et la projette dans la lumière, ce qui fait qu'elle a été appelée par Helmut Schmidt la grand-mère de l'Europe.
Voilà l'histoire de Louise Weiss, l'une des oubliées de l'histoire dont vous nous racontez le destin dans ce livre, Jean-Yves Le Naour. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.